Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, émission numéro 290, mercredi 8 mars 2023, 14h03, Christophe Rollin au micro, Francis est de retour, ouais super, chronique 24 à venir tout à l'heure, l'égoïsme se partage, chronique littéraire en fin d'émission, Louis Fèvre d'Arcier est également présent, c'est le directeur des archives municipales, et il vient nous parler, attention c'est bien différent des archives départementales dont nous parlions la semaine dernière, Louis Fèvre d'Arcier, directeur donc de ces archives municipales, vient nous parler de l'exposition La Belle, oui j'emploie très volontiers cet adjectif, La Belle exposition La Scuola Mozaicisti del Friuli à Lyon. Elle se tient jusqu'au samedi 8 avril sur la place des archives, c'est juste derrière Perrache. Et cette exposition se propose donc de retracer un peu l'histoire de cette école et davantage le lien avec les mosaïques à Lyon. Je viens d'en trouver, auditeur, auditrice, en venant à la radio tout à l'heure, j'en ai trouvé de belles sur la salle, au-dessus de la salle Rameau et puis également... dans la rue, la petite rue qui monte sur la place Satonnet. Bref, ces mosaïques sont vraiment très belles et pour en voir des très actuelles, des très contemporaines, il faut se rendre aux archives. Nous allons en parler dans cette émission, comme tous les mercredis jusqu'à 15h. On va commencer avec de la musique, forcément, puisqu'il est question des archives. On va écouter Archive, le titre Cloud in the Sky. J'extrais cela d'une sorte de CD compilation des Incorruptibles de 99. C'est bien, c'est une forme d'archive également, ce CD dont je dispose. Donc écoutons ce titre et puis ensuite nous posons les questions habituelles à notre invité. Qui est-il? Quel est son parcours? Que sont ses archives? Et quelle est cette exposition? Vous nous écoutez, vous faites très bien sur le radiocanu.org si c'est sur internet et si c'est à Lyon, c'est très bien aussi, c'est le 102.2 de la bande FM. Thank you. Et voilà, ça se termine de manière un peu sèche. Et parfait, cela m'évite de faire. Te rappelles-tu de cela? Te rappelles-tu cela il y a deux semaines, Francis, quand je devais sans arrêt couper la fin des morceaux avec l'invité, oui, Claire Delamarche de l'Auditorium. Mais aujourd'hui, nous recevons Louis Febvre d'Arcier, directeur. Est-ce bien le titre? Bonjour Louis.
Oui, c'est bien le titre, oui.
Directeur des archives municipales. Mm-hmm. Nous vous recevons pour parler de l'exposition La Scuola Mozaicisti del Friuli à Lyon. Mais dans un premier temps, peut-être pourriez-vous retracer un peu votre parcours et puis évoquer un peu ces archives municipales. J'insiste encore une fois, auditeur, auditrice, c'est peut-être maladroit d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout la même chose que les archives départementales qui se trouvent dans un autre quartier, qui traitent d'autres choses aussi. D'ailleurs, pour arriver à la réponse à cette question, quelle différence entre ces deux archives, pourriez-vous retracer votre parcours par l'école des chartes, hein? Vous êtes passé par cela, je crois, Louis Favre d'Arcier.
Oui, alors comme beaucoup d'archivistes, j'ai fait l'école des chartes, donc il y a maintenant 25 ans. J'ai passé un concours d'entrée qui est très axé sur l'histoire, et ensuite à l'école des chartes, on a plutôt des enseignements autour de ce qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire, c'est-à-dire la paléographie, la lecture des écritures anciennes, la compréhension aussi des manuscrits, des archives, et un peu d'archéologie, d'histoire de l'art, etc. J'ai fait une thèse sur la réception d'un auteur antique au Moyen-Âge.
Il faut le nommer, allez.
Il faut le nommer.
Allez, nommons-le. On s'est dit Francis.
En général, ça a plutôt fait rire mes condisciples à l'époque, mais bon, c'était Darès le Phrygien, l'histoire de la chute de Troie, donc qui est en fait un best-seller du Moyen-Âge, puisqu'on a encore plus de 220-230 manuscrits conservés, ce qui est énorme en fait pour un auteur de ce type.
Un continuateur d'Homère en quelque sorte, c'est un peu ça?
C'est en fait un peu plus qu'un continuateur.
Je réduis.
C'est un correcteur d'Homère, c'est-à-dire que son propos est de montrer qu'Homère, qui était un poète, et comme chacun sait, les poètes sont des menteurs, raconter n'importe quoi, et que lui, Darès le Phrygien, qui est un témoin de la guerre de Troie, puisqu'il a combattu du côté troyen pour défendre la ville, il raconte les événements tels qu'ils se sont réellement passés.
Et donc vous avez travaillé sur des textes, des copies, enfin du moins forcément ce ne sont pas des manuscrits originaux, ce sont des...
Alors il est très rare que pour des textes antiques, on ait vraiment des manuscrits antiques. On a des manuscrits médiévaux dans le meilleur des cas. Il y a quelques exceptions parce qu'en fait, parfois les archéologues trouvent des fragments, voire des textes un peu importants, enfin des éléments un peu importants.
Gravés peut-être, pas sur du papier, si.
Sur papyrus et plutôt en Égypte ou en tout cas au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans des endroits où la conservation des traces, enfin des manuscrits est plus facile qu'en Europe où il fait humide et où les documents ont tendance à pourrir quand ils sont pas bien conservés. Donc pour les manuscrits d'historiens antiques comme Darès le Phrygien, je dis historien même si c'est très fantaisiste, on en a à partir du 8e siècle, c'est-à-dire à partir du moment où les copistes, les monastères carolingiens s'organisent pour conserver un certain nombre de livres. Enfin, ça existait certainement avant, mais on n'a pas de traces plus anciennes.
Francis, hein, on parle déjà des archives, là. Je vous remercie, Louis Febvre d'Arcier. Vous êtes bien en train d'évoquer un peu les archives, la conservation, à travers ce que vous êtes en train d'évoquer. Donc, une fois cette thèse, c'est ça, ces recherches faites, menées, vous publiez, et puis quel parcours encore vous mène aux archives à Lyon?
Alors, en fait, de façon assez classique, à la sortie de l'école des chartes, on passe un concours. Moi, j'ai passé le concours de l'École nationale du patrimoine, devenue depuis Institut national du patrimoine, pour devenir conservateur du patrimoine, et les conservateurs du patrimoine de la spécialité archives, dont je fais partie, souvent ont des fonctions de direction dans des services publics d'archives.
Et c'est la fonction publique d'État, du coup.
Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier, parce que j'ai réussi un concours de la ville de Paris. Et donc, mon premier poste a été à la ville de Paris, où je suis resté 4 ans et demi, avant de partir dans un ministère pour être responsable du service des archives du ministère de la Justice. Et puis, je suis resté 4 ans au ministère de la Justice, et ensuite 5 ans à la Cour des comptes, où j'ai été responsable du service des archives et de la documentation. Avant donc d'arriver à Lyon, Lyon qui bénéficie d'un service d'archives qui, en tout cas, avant mon arrivée, avait très bonne réputation. Donc, quand j'ai vu que le poste était vacant, et bon, c'était une évolution que je souhaitais, en fait, pour plein de raisons familiales et professionnelles, j'ai candidaté et j'ai été retenu. Voilà.
Donc, vous êtes arrivé, cela ne fait pas encore 10 ans.
Ça ne fait pas 10 ans, ça fait 7 ans. À peu près, voilà.
Et sur ce bâtiment qui existait déjà, alors que auparavant, peut-être voilà qu'on pourrait arriver à
une... Peut-être rappeler où sont les archives
oui,
municipales.
Oui, c'est ça, le lieu, la matière, la fonction de ces archives municipales.
Alors, la fonction des archives municipales, donc elle est un peu dans le nom, c'est-à-dire conserver les documents produits par l'administration de la ville de Lyon. Dès lors que ces documents ont un intérêt historique. Donc quand, par exemple, on parle d'intérêt historique, c'est parfois des documents très administratifs, mais dont on sait que dans 200 ou 300 ans, on aura sans doute des gens pour s'y intéresser, parce que ça parle de l'histoire de tout le monde.
Vous avez des exemples ?
Alors, l'état civil, premier exemple, très simple, effectivement. On a plein de généalogistes qui s'intéressent à leurs ancêtres et qui vont voir les actes de naissance. Les délibérations municipales, parce que ça donne quand même un peu l'avis de la collectivité avec les grandes décisions qui sont prises. Les permis de construire, parce que c'est ce qui donne aussi une idée de comment le paysage urbain a pu évoluer. Donc ce sont des exemples qui sont d'ailleurs les plus consultés. Après, il y en a beaucoup d'autres sortes de documents qui sont conservés. On a aussi des choses sur les œuvres sociales de la ville quand elles ont été créées au XXe siècle. On a beaucoup de choses sur les écoles à partir du XIXe siècle. On a évidemment des archives sur les finances de la ville depuis pratiquement le XVIe siècle. On a la correspondance avec l'étranger, etc. Enfin, on a beaucoup de choses.
Les plus vieilles, elles remontent à quelle époque ?
Alors, le plus ancien document date de 1203. Et en fait, c'est un document qui n'est pas municipal, parce qu'en fait, en plus des archives de la ville de Lyon, on a les documents des hospices civils de Lyon, qui nous ont été déposés il y a maintenant une dizaine d'années. Sachant que nos archives pour les hospices civils commencent au XIIIe siècle et s'achèvent au milieu du XXe siècle, avec donc par exemple les registres de l'Hôtel Dieu, avec les naissances à l'Hôtel Dieu, les entrées dans les hôpitaux, etc.
Et ces matières ces archives-là ne pourraient pas se trouver aux archives départementales. C'est
alors pour ce qui est municipal à proprement parler, non. Le principe, c'est quand même que les archives municipales sont sous la responsabilité de la ville. Pour les hôpitaux et notamment pour tout ce qui relève des hospices civils, ça a été en discussion un bon moment entre mon prédécesseur et le prédécesseur de
Bruno Galland, que nous recevions la semaine dernière.
Et en fait, la solution qui a été retenue a été en effet de déposer ces archives des hospices civils aux archives municipales à cause du lien qu'il y a, et qui est très ancien, entre la municipalité et l'organisation des hospices civils. Notamment, sous l'Ancien Régime, il faut savoir que pour devenir échevin de Lyon, il fallait être passé par l'administration de la Charité ou de l'Hôtel Dieu, donc les deux grands hôpitaux lyonnais qui existaient à partir du XVIe et du XVIIe siècle.
Ce bâtiment, donc, on en parlait, qui se trouve, c'est toujours devant, derrière Perrache, quand on descend, quand on arrive.
Côté Confluence.
Quand on arrive de Bellecour, de Bellecour, il faut passer Perrache. C'est... D'ailleurs, il y a un mode très doux pour s'y rendre. Là. Il y a deux moyens qui sont très agréables, une sorte de tunnel, ouais. De passage. Et je vous coupe, Louis Fèvre d'Arcier, vous alliez dire, oui, que c'est...
Oui, ben, effectivement, on est à côté de la Confluence, donc dans ce quartier qui a été largement, pas totalement, mais largement rénové et restructuré à partir du début du XXIe siècle. On y est depuis le début du projet Confluence, en fait, hein, c'est-à-dire que la décision a été prise de relocaliser les archives qui étaient précédemment dans le Vieux Lyon, à côté de la cathédrale, au Palais Saint-Jean. Donc la décision a été prise au milieu des années 90, avec donc l'idée de restructurer un bâtiment qui était à l'époque le bâtiment du Tri Postal, pour en faire un centre d'archives. Alors au début, c'était un peu pionnier, ce qu'on m'a dit, parce que évidemment je n'étais pas là, mais les gens avaient un peu peur de venir aux archives, enfin notamment le soir pour les inaugurations, ils ne savaient pas trop ce qui allait leur arriver.
Et puis, quartier Perrache, oui, c'est ça.
Quartier Perrache, voilà, bon. Et puis, en fait, même moi, donc, qui suis arrivé il y a seulement 7 ans, je dois dire que j'ai vu la transformation très, très, très profonde du quartier à tout point de vue. C'est très impressionnant. Avec, en effet, donc, le développement des transports en commun qui font que maintenant, c'est pas vraiment. Enfin, je pense que l'ambiance a bien changé par rapport au début des années 2000. Le service a été longtemps un service pionnier en matière d'action culturelle dans ce quartier. Non pas qu'on était les seuls, mais je pense qu'il y a eu une politique d'exposition très ambitieuse et très importante du temps d'Anne-Catherine Marin. Alors politique, bien sûr, qui continue. Et avec des expositions très marquantes, comme l'exposition Lyon l'Italienne, qui a attiré plus de 20 000 visiteurs à l'époque, ce qui pour un service d'archives est assez exceptionnel. Puisque, bon, en général, par définition, les archives touchent un public plus restreint que d'autres types de manifestations culturelles. Hein, mais ça, je dirais, c'est certain. Il faut.
Puis elles n'ont pas vocation essentielle de générer des visites ou. C'est pas la première chose auquel on pense pour les archives.
C'est pas le premier objectif, effectivement. Ouais. Le premier objectif des archives, en tout cas par rapport au public, c'est de donner, enfin en fait de servir de ressources, et éventuellement à plein d'autres choses, qui peuvent être l'écriture de l'histoire, qui est quand même l'activité à laquelle on pense spontanément, mais ça peut être aussi des projets culturels, des projets de création. On a des liens parfois avec des créateurs de bandes dessinées.
Vous êtes associé à Lyon BD.
On a été associé à Lyon BD plusieurs années, oui. Et notamment, une année, on a travaillé sur l'écriture d'histoire, pas de l'histoire, mais d'histoire, à partir d'éléments, de scénarios qu'on pouvait extraire de documents d'archives. Donc, comment la fiction, en fait, pouvait se greffer sur des histoires vraies. Et on avait eu la chance d'avoir, grâce à Lyon BD, la présence de Fabien Velman dans nos murs, qui a fait germer toutes sortes d'histoires relativement délirantes à partir de documents d'archives réels.
Est-ce que c'est bien lui, la Brigade Chimérique ? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas si c'est ce scénariste des années 30 en France, d'une sorte d'apparition de premier super-héros. Mais ne nous perdons pas.
C'est possible, parce que ça ressemble bien à sa veine, mais je ne connais pas.
J'ai une petite brochure sous les yeux, Francis, qui reprend bien peut-être ce que vous êtes en train de dire. Oui. Les archives, des activités pour tous, une salle de lecture, un site internet, des ateliers et des visites, des cycles de conférences et des expositions. On va y arriver, vous avez nommé tout à l'heure Lyon l'Italienne, et peut-être évoquais-tu cela, Francis, là, une salle de lecture, il y a trois lignes dessous, où des agents qualifiés vous accompagnent dans vos recherches, l'accès en est libre et gratuit. Effectivement, c'est peut-être davantage ce à quoi on pense pour des archives. On peut éventuellement les consulter en tant que privé, que particulier. Mais là, quand on parle d'exposition, eh bien si, c'est bien indiqué. Pensez comme des projets à la fois scientifiques, éducatifs et scénographiques. Les expositions permettent de découvrir les archives autrement. Et ça semble donc être, oui, effectivement, Louis Favre d'Arcy, une mission, enfin du moins une tâche, une fonction des archives.
Oui. Notre objectif n'est pas de nous restreindre à un public, je dirais, initié. Parce que, bien évidemment, la tentation est forte de parler essentiellement avec des gens qui parlent le même langage que nous. Donc, de se dire, on va surtout privilégier l'accueil de lecteurs, entre guillemets, sérieux. Notre objectif, c'est que les archives qui sont censées être un bien commun depuis au moins la Révolution, puisque, en tout cas, depuis la Révolution, a été posé le principe d'un libre accès aux documents et un principe aussi de patrimonial qui fait que ce qui est conservé aux archives normalement est le bien commun de la collectivité et est mis à disposition librement des citoyens. Donc ça, c'est un principe, mais il n'est pas forcément facile à faire respecter parce que, évidemment, déjà, les documents en eux-mêmes ne sont pas faciles à lire. Les inventaires d'archives ne sont pas toujours très accessibles, Les inventaires, c'est donc ce que nous produisons qui permet d'accéder aux documents. Et donc, on a un travail à faire qui est un travail proprement de médiation pour que, y compris des gens qui ne se sentiraient pas légitimes pour entrer aux archives, pour y faire leurs recherches, puissent venir déjà avoir envie, avoir l'idée de le faire et ensuite ne pas se sentir rebutés au moment où ils entrent aux archives et où ils doivent s'initier à un certain nombre de codes qui ne sont pas forcément évidents.
Qui décide d'archiver tel ou tel document, tel ou tel... Est-ce que vous avez des oppositions, par exemple, des gens qui peuvent dire « non, on va essayer de garder ça secret, on ne voudrait pas que ça reste ». C'est des questions très naïves, mais...
Alors, on n'a pas... On a très rarement des oppositions, en fait. La vérité, c'est que le travail administratif génère énormément de paperasse. Alors, de plus en plus sous forme électronique, mais on a encore beaucoup de papiers dans les caves de l'administration. Les archives, souvent, c'est plutôt perçu comme quelque chose de très encombrant par les services. Il faut imaginer des armoires qui croulent sous les dossiers, des services qui doivent parfois déménager et que les problèmes logistiques liés aux archives en fait embêtent profondément. Généralement, en archives municipales, je parlerai peut-être pas de l'expérience qui peut être celle de collègues qui œuvrent dans d'autres contextes, peut-être plus sensibles, mais dans le contexte municipal, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est beaucoup plus un problème d'ordre logistique, et également aussi une difficulté nouvelle qui est liée au fait que les documents étant de plus en plus dématérialisés, il faut mettre en place les conditions de leur collecte sous cette forme-là. On a par exemple un projet de dématérialisation des permis de construire, qui n'est pas spécialement lyonnais d'ailleurs, qui est national, mais la ville de Lyon est engagée dans un mouvement qui est initié par l'État. De fait, nous devons trouver des solutions pour archiver cette production-là, pour permettre aux citoyens ensuite d'y accéder normalement, comme ils y accédaient en papier. Donc je dirais pas trop... Il n'y a pas trop d'opposition. Parfois, évidemment, quand c'est un peu plus politique, c'est un petit peu plus compliqué, ça a pu se passer, mais globalement, on a quand même des versements d'archives. Ce qui est même paradoxal, c'est par contre que parfois, on a des gens qui viennent nous donner des archives pour faire leur histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle les archives privées. Alors, parfois, avec des intentions très claires, très clair. Non, pas clairement dites, mais en découvrant les archives, on se rend compte des intentions du donateur. Il y a quelquefois des gens qui, en fait, en rassemblant leurs archives personnelles ou familiales, se construisent une sorte de monument pour la postérité, en fait. Donc avec une forme de, je dirais, de tri très sélectif. Ça peut arriver. On a aussi des gens qui se disent je sais que personne dans ma famille ou dans mon entourage ne va s'intéresser à ça. Et donc, je pense que c'est quand même intéressant pour tout le monde, donc je vous l'apporte. On a parfois des gens aussi qui, alors ça c'est parfois assez touchant, un monsieur qui avait trouvé une lettre datant de 1945 en refaisant le papier peint de son appartement. Elle était dans un trou dans le mur. Il est venu m'apporter la lettre en me disant « Je suppose que ça peut peut-être vous intéresser. » Bon, après, je sais pas quoi en faire. Mes enfants, ça les intéresse pas, évidemment. C'était pas la famille non plus. Et donc, il m'a apporté une lettre de 1945. Donc parfois, les dons d'archives, les entrées d'archives, c'est parfois des toutes petites choses.
Je pense qu'il est temps d'évoquer cette exposition parce que voilà, c'est peut-être une motivation, une raison pour laquelle on peut venir aux archives et une fois qu'on aura que auditeur auditrice, une fois que public vous serez entré dans ces archives pour voir cette belle exposition, peut-être aurez-vous envie également d'entrer dans les salles de lecture, d'aller plus avant parce que il y a vraiment encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire des archives. J'extrais ces mots de la petite brochure qui est destination des jeunes publics pour les activités scolaires et extrascolaires. Les documents d'archives sont une source primordiale pour l'historien ou le géographe d'une ville et de ses habitants. Ils peuvent également nourrir des projets pédagogiques autour de l'écriture, des arts et des sciences, mais aussi dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Riches et variées, les archives se révèlent étonnamment ludiques et contribuent à former l'esprit de discernement des citoyens en herbe. C'est vraiment très bien. Donc bref, on peut tous entrer dans ces archives, d'autant plus que cette exposition, je lis une petite présentation qui est faite sur la jolie brochure qui montre bien, et encore, je crois qu'elle ne rend pas assez hommage à ces œuvres que vous exposez, qui sont vraiment, vraiment stupéfiantes. La Scuola Mosaicisti del Friuli, école de mosaïstes, établie à Spilimbergo, au nord de l'Italie, fête ses 100 ans. Depuis 1922, oui, l'exposition a commencé en novembre 2022. Depuis 1922, elle a formé un nombre important de jeunes qui souvent ont exercé leur art en dehors du territoire italien. Aujourd'hui, la Scuola transmet un savoir-faire d'exception à des élèves du monde entier. Les archives municipales de Lyon qui ont organisé, vous le rappeliez il y a quelques instants, Louis Favre d'Arcy, en 2014, l'exposition Lyon l'Italienne, participe à cette exposition. En effet, de nombreux mosaïques de bâtiments et lieux publics lyonnais ont été réalisés par des frioulants, dont certains issus de cette école. Je vous propose pour clore ce chapitre sur les archives, d'écouter un titre de Daniel Darc, Je me souviens, je me rappelle, et puis nous évoquerons ensuite plus précisément cette exposition qui, peut-être y avait-il finalement peu de documents d'archives même du fond des archives municipales, mais il y a quand même beaucoup de choses à voir, à lire, mm-hmm. à entendre, à considérer, à constater, et ensuite quand on se rend dans les rues de Lyon et qu'on peut voir quelques-unes de ces mosaïques, c'est... on est content. Écoutons Daniel Darc et nous continuons à parler de cette exposition qui se tient aux archives municipales. Adresse très facile à retenir, hein, station métro Perrache, tram Perrache également. Le 1, place des archives. C'est bien ça. Écoutons Daniel Darc et nous continuons avec Louis Favre d'Arcy, notre invité pour aujourd'hui.
À mon cœur, le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Très doucement jouait le vent, alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant comme j'aimais cette croix. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle ces temps si vieux et chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances qu'ils montent et plongent sans bruit. Étoiles brillant dans la nuit. Étoiles brillant encore dans la nuit. Dans la nuit.
Je me souviens, je me rappelle, un titre de Daniel Darc, j'extrais cela d'une compilation, c'est 20 ans sans chanson, je crois, des Incorruptibles. Est-ce que j'ai le nom de l'album? Est-ce que... Non, 2004, avec Frédéric Lau. Ce titre, c'était pour clore une sorte de première partie pour évoquer les archives municipales qui se situent quartier Perrache et qui accueillent actuellement une belle exposition. Je dis actuellement, ça a déjà commencé en novembre dernier, il y reste encore un mois, ben pile. Nous sommes le mercredi ouais. 8 mars et jusqu'au samedi 8 avril, avec des horaires un peu une amplitude pas forcément très... c'est 13h, 17h seulement, enfin pour le lundi, mardi, vendredi un peu plus important, matinée 9h midi, pause 13h 17h et les samedis dimanche généralement c'est fermé. Ah mais ouverture exceptionnelle les samedis 25 mars, 1er et 8 avril de 13h à 18h. Et puis voilà, enfin je dis ça parce que moi pour m'y rendre concrètement, j'ai pu aller quelques mercredis en quittant la radio, mais sinon pour peu qu'on travaille pas forcément dans le quartier, venir à cet endroit avant 17h, c'est peut-être un peu difficile. Et c'est dommage parce que l'exposition est vraiment très belle. J'ai lu déjà quelques lignes tout à l'heure, je pourrais encore en lire d'autres, mais puisque nous recevons le directeur lui-même des archives municipales, comment Louis Febvre d'Arcier pourrait-on parler de cette exposition, les mosaïques à Lyon? Est-ce qu'il y aurait une raison qui fait que vous avez souhaité vous associer au centenaire de l'école La Scuola Mosaicisti del Friuli? Oui, bien sûr, question complètement. Alors, il y a des raisons.
Oui, évidemment, il y a une raison.
Il y en a même plusieurs, non?
C'est... Il passait devant la porte. voilà.
Dites donc, on cherche où faire notre centenaire. Il y en a plusieurs de raisons, c'est ça que...
Alors, en fait, les expositions des archives municipales, en tout cas, leur fonctionnement est souvent lié à des rencontres avec des partenaires qui peuvent être associatifs ou qui peuvent être institutionnels. En l'occurrence, donc tout à l'heure j'ai fait référence à l'expo sur
Lyon l'Italienne 2014.
En fait il y avait des Italiens qui depuis un moment rêvaient de faire quelque chose sur l'histoire de la mosaïque parce que en fait il y a une présence italienne importante à Lyon et spécialement une présence importante de gens qui ont œuvré dans le domaine de la mosaïque et qui peuvent être des artistes ou des artisans de la mosaïque et du carrelage. Enfin, il y a eu toute une filière d'immigration aussi liée à cet artisanat. Il se trouve que beaucoup d'entre eux, en tout cas pour la mosaïque, sont en fait originaires de la même région d'Italie, qui est le Frioul. Et ça, c'est en fait un fait qui est très ancien. Ça date même du début du 19e siècle. Bon, évidemment, les gens du début du 19e siècle ne sont plus là, mais disons que les derniers représentants de cette immigration sont encore en vie, bien actifs, et souhaitaient en fait donner au public une connaissance un peu de ce qu'ils avaient pu faire par le passé. Et donc, ils sont venus me voir pour me proposer ce projet d'exposition. Il se trouvait... en parallèle, mais alors là, je pense que c'est plus des connexions entre eux et leur région d'origine, qu'il y avait donc cette école de Spilimbergo, qui n'a pas spécialement de lien avec les archives municipales de Lyon, mais qui a formé un certain nombre d'entre eux, qui souhaitait fêter son centenaire. Alors c'est une école spécialisée dans la mosaïque, qui forme des artisans et des artistes donc à ces techniques-là, d'abord sur la base de l'imitation de l'Antiquité. D'ailleurs, vous avez pu voir, je pense, en visitant notre expo, une énorme mosaïque qui, en fait, est une copie de mosaïques qui sont encore visibles dans le nord-est de l'Italie.
C'est celle de la Divine Comédie, c'est ça, de l'enfer là.
Non, c'est plutôt celle qui est à l'entrée, où vous avez des motifs floraux et animaux qui est en fait de très grande dimension et qui est quasiment à plat, en fait. Qui est une reproduction d'une mosaïque d'Aquilée.
Oui, voilà. C'est tout faux, je vois, oui, effectivement.
Les spécialistes de la mosaïque disent mais qu'en fait c'est un excellent travail artisanal, et il se trouve que c'est un travail fait par les élèves de première année de cette école-là. qui sont en fait, alors à l'origine, c'était une école qui avait un peu une vocation, je dirais, de formation professionnelle quasiment sociale, en fait. Hein, c'est créé dans les années 20, avec l'idée que les élèves qui sont formés à cette école puissent s'exporter dans un contexte où l'Italie n'avait pas nécessairement beaucoup de déboucher en fait pour une main d'œuvre qualifiée. L'idée c'était de pouvoir permettre à ces artisans de trouver du travail en Europe, en Amérique, etc.
Et il y a une sorte d'exemple dans ce, oui. ce beau catalogue, très format très agréable, très, très simple. Je suis à la page 107. Un élève de Spilimbergo, du Frioul à Lyon, témoignage de Danilo Vezio. C'est un peu ça. Il reçoit cette formation et ensuite, il part loin. Il sort à Toronto. Il est à Lyon également. Il passe un peu partout.
C'est ça. Alors, il se trouve que donc, M. Vezio est toujours vivant et très actif.
Âgé, non ?
Oui, bien sûr, il est à la retraite, mais c'est un des Italiens qui sont venus nous voir pour nous proposer le sujet. Et donc, effectivement, il se trouve qu'il témoigne dans le livre parce que forcément, il connaît cette histoire, je dirais, à la première personne. Mais pour lui et pour ses collègues, c'est vraiment un enjeu fort de transmission, en fait, d'une mémoire.
Je vous ai coupé. Vous étiez sur l'école qui permet, qui voulait former des.
Alors en fait, il s'appuyait sur en fait un substrat hein, parce qu'en réalité, il y avait depuis des décennies tout un milieu artisanal qui existait dans cette région-là, avec des gens qui se formaient un peu sur le tas ou plutôt en mode compagnonnage, en fait, avec un apprentissage de maître à élève. Et donc là, l'école, en fait, change les modalités d'apprentissage dans un endroit où on apprenait déjà ces techniques-là. Alors, pourquoi, en fait, il y avait des gens qui venaient d'Italie en France pour faire de la mosaïque au 19e siècle ? En fait, la première raison, c'est que, et notamment à Lyon, mais dans d'autres villes du sud-est de la France, au début du 19e siècle, il y a beaucoup de bouleversements d'ordre immobilier. Avec la vente des biens nationaux, on détruit des immeubles, on fait des fouilles. L'archéologie commence à émerger en tant que pratique de fouilles. Il y avait des archéologues avant, mais l'idée de faire des fouilles était quand même relativement rare. Enfin, il y avait Pompéi au XVIIIe siècle, mais c'était quand même un peu exceptionnel. Et donc, à ce moment-là, à Lyon, on voit ressortir de terre de magnifiques mosaïques romaines. Le problème, c'est que en France, jusqu'au début du XIXe siècle, la mosaïque, on ne la pratiquait plus. Il n'y avait plus du tout de tradition. Et donc, pour restaurer ces œuvres, on n'avait pas de savoir-faire. Donc, le premier conservateur du musée des Beaux-Arts,
François Artaud,
a fait venir donc des artisans italiens. Et des artisans qui, pour certains, étaient effectivement originaires de cette région du Frioul.
On a reparlé à Lyon de François Artaud en novembre dernier, l'occasion de l'exposition qui était sur les hiéroglyphes et Champollion, qui a également noué des liens avec ce François Artaud. C'est assez incroyable qu'il soit comme ça au carrefour de recherches importantes sur des domaines tout de même différents, la civilisation égyptienne et puis les mosaïques romaines. Je vous ai à nouveau coupé.
Il est partout.
Il est partout, François.
Ça devait être certainement des gens hyper actifs, en fait, qu'on trouvait un peu dans tous les dossiers.
On a indiqué les années 1820-30, c'est ça ?
Exactement. Et donc, il fait venir des artisans pour faire de la restauration. Alors, la restauration aussi, comme on l'entend au 19e siècle, c'est-à-dire que s'il y a des trous, on demande de combler les trous. Donc c'est pas forcément la restauration avec l'éthique de la restauration qu'on pratique aujourd'hui, où on laisse les lacunes bien visibles pour que celui qui veut étudier ses œuvres ne soit pas induit en erreur par des comblements un peu excessifs. Il n'empêche que c'est quand même lui qui engage les choses. Et il s'avère, alors ça c'est très très 19e siècle, que en fait en France on prend conscience de l'intérêt de la mosaïque Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est hygiénique. Donc ça, c'est quand même le grand mot du 19e siècle, enfin un grand mot du 19e siècle. Ça permet effectivement de faire des sols et des murs qu'on peut nettoyer. C'est aussi économique, ça c'est également important, avec en plus le développement de techniques liées à certains artistes et artisans, notamment à l'occasion du chantier de l'Opéra de Paris, qui permettent de diminuer le coût de revient des mosaïques. On peut assez rapidement faire des grandes surfaces avec à peu près autant de main d'œuvre qu'on en avait auparavant pour faire des œuvres plus petites. Et donc la mosaïque va se développer, et se développer beaucoup à Paris et à Lyon, et entrer dans l'espace public. Alors vous disiez tout à l'heure qu'en vous promenant, vous en voyiez, donc il y en a, effectivement c'est assez daté quand même, hein, c'est plutôt 19e, début 20e siècle.
C'est le premier tagueur de la ville, quoi.
Si on veut.
Mais sauf qu'ils étaient, c'était autorisé.
Officiel, tagueur officiel.
Donc, mais ça me fait penser à quelqu'un qui fait de la mosaïque, qui refait les trottoirs, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle MMM. Ça vous parle ou pas?
Oui, un peu.
On peut parler de mosaïque ou...
Oui, c'est de la mosaïque.
C'est de la mosaïque contemporaine.
On n'a peut-être pas encore défini l'art mussif. C'est le fait de... Il y a une bonne définition, je crois, qui est donnée dans ce catalogue. La mosaïque, c'est l'assemblage de petits cubes ou parallélépipèdes multicolores, marbre, pâtes de verre, juxtaposés et retenus par un mortier de façon à former un dessin. L'art mussif, c'est l'art de la mosaïque. Le terme viendrait de l'évolution de la dénomination opus musivum, définissant le lieu d'utilisation de la mosaïque par rapport à opus tessellatum, qui se réfère à la tesselle. Il faudrait qu'on évoque aussi les mosaïques vénitiennes, mais bon, il y a plein de choses.
Mais après, sur les mosaïques, je ne sais pas, je connais pas grand chose, mais j'ai la sensation qu'on est quand même sur des œuvres qui datent un peu, qui parlent de. Est-ce que de la mosaïque contemporaine.
Il faut aller voir l'exposition. Les œuvres sont très récentes.
Ok, ben voilà, je pose une question naïve.
Ça existe, parce qu'en fait, effectivement, au départ, on part de la restauration. Donc le besoin de départ, c'est restaurer des œuvres antiques qu'on découvre dans la terre. C'est pour ça aussi que les artisans, aujourd'hui, ont dans leur apprentissage l'imitation de l'antique, parce qu'il faut comprendre aussi comment c'est fait pour le restaurer. L'exposition, mais ça c'est grâce à l'école de Spilimbergo, parce qu'on n'avait pas d'exemple sous la main, très très simple. Aujourd'hui, la mosaïque se développe aussi vers des œuvres à trois dimensions. Donc dans l'expo, vous avez quelques exemples comme ça, avec
des troncs.
Des troncs,
il y a trois
exactement.
Troncs.
Une œuvre aussi toute dorée, qui en fait est vraiment tridimensionnelle et très très lumineuse, et puis des grandes œuvres, des grandes fresques, je dirais, enfin c'est pas vraiment des fresques, enfin en tout cas des grandes plaques de mosaïques constituées avec un mélange de tesselle un peu classique et de d'objets en fait trouvés dans la nature, c'est pas exactement ça, mais plutôt dans l'environnement quotidien. Donc vous avez des stylos, des Legos,
des piles,
des emballages.
J'ai vu des piles.
Ouais.
À l'intérieur, c'était...
Donc la réponse est oui.
La réponse est oui.
Il y a une création contemporaine.
Ça existe, oui, tout à fait. Il y a une création contemporaine en mosaïque. Alors par contre, ce qui a disparu, enfin assez largement depuis, je dirais, les années 50-60, parce que sans doute l'évolution des goûts et des commandes est ainsi, ce sont les œuvres monumentales. La plupart des œuvres qui sont produites récemment sont plutôt des œuvres de chevalet, enfin qu'on pourrait qu'on peut déplacer relativement facilement. Manifestement, il y a relativement moins d'œuvres comme des ensembles de mosaïques comme on en voit dans le métro à Lyon ou à Fourvière, évidemment, donc qui représentent des surfaces très considérables.
Il y a moins de tagueurs, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, voilà, si on considère que le métro et Fourvière sont des tags géants.
C'est ça.
Il y a une mention que je recherche dans Fourvière. Il me semblait que c'était qualifié de à Rome, j'ai perdu le mot, de Sixtine, c'est ça je crois, de Sixtine de la mosaïque.
Oui, chapelle Sixtine de la mosaïque, alors je ne sais plus de qui l'expression.
Où se trouvait la mention.
Oui.
Peut-être ce que je peux vous proposer, c'est qu'on arrive tout doucement à l'heure de la chronique de Francis. Francis, on va gérer le générique. Chronique littéraire, et puis on va reprendre ensuite, parce que finalement j'ai lancé cela en tout début d'émission, mais Bruno Paccard, ce n'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour plus tard, je crois, je suppose.
Dans un mois et demi maintenant.
Oui, donc on évoquera peut-être pas forcément cette rétrospective de photographies en noir et blanc qui sont, j'avais également une petite présentation qui indiquait que c'est un œil, comment est-ce cela a été qualifié, un œil, une exposition photographique sur un sujet de société dont le thème sera prochainement, non c'est plutôt rétrospective, voilà, Bruno Paccard, depuis plus de 50 ans, Bruno Paccard, photographe en noir et blanc et en couleur. Photographie en noir et blanc, en couleur, en argentique et en numérique, attentif aux ambiances, aux détails, au sens des images et à leur détournement potentiel, il est le témoin des mutations que la ville de Lyon a connues. Nous, on va rester sur l'exposition actuelle de la Scuola Mosaicisti del Friuli à Lyon. Il y a encore différentes choses à dire. J'aurai peu d'annonces à faire en fin d'émission. Donc, Francis s'est calé. Nous lançons le générique. Donc, Louis Fèvre-Darcier, nous nous interrompons quelques instants sur cette exposition, chronique littéraire, et nous reprenons ensuite pour continuer à parler encore de cette exposition jusqu'à 15h. Il nous reste un peu de temps.
Je crois qu'il existe environ 190 pays dans le monde, ou 190 cultures différentes, 190 sociétés. Elles sont toutes différentes, mais il existe au moins une chose commune à toutes ces sociétés, parfois très différentes les unes des autres, c'est les inégalités sociales. À travers le dernier récit de Marcello Quintanilla, Écoute, jolie Marcia, publié chez Ça et Là et récompensé par un Fauve d'or au Festival de la BD d'Angoulême en 2022, nous allons donc parler du Brésil à travers cette bande dessinée. Mais attention, pas le Brésil touristique ou le Brésil qu'on nous vend sur carte postale. Non, nous allons parler du quotidien du Brésil, ce pays où, comme tant d'autres, les inégalités sociales sont bien présentes. Chronique presque littéraire, Christophe, l'égoïsme se partage, hashtag 24. Marcello Quintanilla, Écoute, jolie Marcia. Marcello Quintanilla nous parle des favelas de Rio et de ces personnes exceptionnelles qui survivent dans ces favelas. Il parle de ces hommes et de ces femmes qui naissent et grandissent dans cette société parallèle. Il nous raconte l'histoire de cette femme exceptionnelle, de cette mère exceptionnelle, de cette compagne exceptionnelle, Marcia. Marcia est infirmière, elle travaille dans un hôpital aux alentours de Rio. Elle est très appréciée des gens qui la connaissent, elle est généreuse, à l'écoute des uns et des autres. Elle élève seule sa fille de 20 ans, Jacqueline. Le père de Jacqueline n'existe pas dans la BD. Marcia est donc avec son compagnon, Aloysio, son présent. Jacqueline navigue dans les gangs de la favela. Elle évolue à travers les nombreux trafics courants dans ce monde où la pauvreté n'est qu'une banalité. L'histoire raconte comment cette mère courage, Marcia, va tout faire pour sortir sa fille de cette délinquance inhérente aux favelas. Comment son compagnon va s'impliquer pour sauver sa belle-fille au risque d'y perdre la vie. Marcello Quintanilla nous rappelle cette triste réalité bourdieusienne propre à chaque pays, chaque société, à travers Jacqueline et sa famille. Il nous raconte également la culpabilité d'une mère désemparée, le manque total de reconnaissance d'une fille complètement perdue. On y croise des personnages manipulés par les gangs, l'absence totale d'une quelconque conscience, et à travers ses dessins, on y voit aussi la malbouffe présente à travers cette tranche de population désœuvrée. On y croise également la corruption quotidienne de la police locale, et bien entendu le mythe de Sisyphe où rien ne change malgré les efforts et les implications de certains policiers. Les malfrats se suivent et se ressemblent. Un gang démantelé et un nouveau se reforme aussitôt. La seule échappatoire, c'est la fuite. Ça s'appelle Écoute, jolie Marcia, publié chez Ça et Là et écrit par Marcello Quintanilla.
Ça marchera la prochaine fois, Francis. Je te promets que la prochaine fois, ça fonctionnera à fond. Muito bem, le Brésil, c'est très très bien. Merci, ça nous fait voyager. Je proposais, j'avais un titre musical à diffuser, je pensais le faire pendant que nous parlions de Lyon l'Italienne. Ah non, Lyon l'Italienne, c'est fini, c'était il y a 7 ans l'exposition. On écoutera ce titre en fin d'émission. J'ai dit que j'aurais peu d'annonces, il y a quelques pièces de théâtre actuellement. L'orage d'Ostrovski a commencé au Célestin, commence aujourd'hui, ce 8 mars, ce soir. Une pièce d'Alexandre Ostrovski, mise en scène par Denis Podalides. Je l'ai lu, je ne sais pas si j'irai. Oui, certainement, ce sera un beau spectacle, ample, avec beaucoup de souffle et du tragique, beaucoup de sentiments et d'émotions. Mais voilà, cela moi, m'a moins plu. J'irai peut-être voir le Cyrano Project, en revanche, qui a commencé le 28 février, se terminera le 18 mars, c'est à la Comédie Odéon. Rappelez-vous, Jérôme Sauvion était de passage à l'émission à la mi-février pour parler de ce seul en scène dans lequel il incarne plus ou moins tous les personnages, Cyrano, Roxane, Christian, Lebray, Ragno, De Guiche, etc. Et puis il y a encore d'autres choses à venir aussi, mais il y en a trop. Isolons seulement le festival qui commence dans 10 jours, le festival de l'opéra, festival Franchir les portes, qui aura lieu du 17 mars jusqu'au 1er avril. Et puis, un peu plus que le 1er avril, jusqu'au 4 avril, avec 3 opéras. Nous recevrons la semaine prochaine le metteur en scène de l'opéra Les Noces de Figaro. Et puis dans 2 semaines, Et si l'amour s'était aimé, de Fab Caro. La BD sur scène au Chalala, c'est juste à côté, à 2 pas de la place Satonnet où nous nous trouvons. Et c'est absolument génial, c'est très, très drôle, très amusant. Louis Fèvre d'Arcy, encore quelques minutes pour évoquer cette exposition. Il y a encore d'autres expositions à voir aussi. Vous pouvez les procès de mémoire, cela continue, dessiner et filmer l'histoire. Regard pour l'histoire, ça continue aux archives départementales. Mais pourquoi aller voir ces œuvres aux archives municipales? Parce que elles sont belles. Donc, comment en parler? On n'a peut-être pas assez dit. La mosaïque, vous êtes parti tout à l'heure et vous aviez tout à fait raison sur un caractère hygiénique dans mi-19e, mais c'est absolument important, c'est capital, donc et puis c'est plus solide, hein, aussi, l'émail des carreaux n'est pas encore d'une qualité telle que l'on puisse marcher dessus, et donc voilà, la mosaïque a toute une histoire à Lyon.
Mais tu parlais aussi, Christophe, tout à l'heure de qu'on pouvait voir des œuvres de mosaïque dans les rues de Lyon. Je sais pas, vous avez mis en place un parcours, un chemin où on pourrait...
Il faut lire ce petit... catalogue, une dizaine d'euros, 10 euros.
Il n'y a pas de parcours à proprement parler.
Il y a des adresses données parfois.
On a quelques adresses donc dans un petit livre qu'on a publié, alors que vous pouvez trouver chez nous.
Bel ouvrage, bien solide, voilà. Beau papier.
En tout cas pendant la durée de l'exposition, puisque nous avons en fait un lien avec cette association Fogolar Furlan de Lyon. Ils proposent, donc nos partenaires proposent en fait une balade sur la trace des mosaïques à Lyon, avec en effet une explication plutôt orientée technique, mais justement c'est ça qui est intéressant, parce que on ne voit pas forcément toujours ce que ça représente en termes de technicité de faire une mosaïque. Et ils parcourent à la fois évidemment Fourvière, le Vieux Lyon et la Presqu'île.
Ça pourrait presque faire un jeu de piste.
C'est quasiment une... Enfin, je pense qu'il marche beaucoup. Ouais. Enfin, j'ai pas fait le parcours, mais oui.
Vous avez évoqué des partenaires, collaboration pour cette exposition. Il y a également l'Ente Friuli nel Mondo, et puis aussi l'Institut culturel italien de Lyon. Il y a même des moments aussi qui sont autour de cette exposition. Certaines dates sont déjà passées, des conférences, mais il reste encore celle du mardi 14 mars, la semaine prochaine.
Tout à fait.
Mosaïque architecturale en France au 19e siècle, Renaissance et splendeur, par Maryse de Stéphane Wandris. Il y a cette chose à dire que moi je cache derrière le mot beau, belle, mais il y a quand même une forme de comment qualifier ça, d'épaisseur. Il y a presque, oserais-je le terme, sensuel dans la mosaïque. Il y a une matérialité, la polychromie. Je n'ai pas évoqué les mosaïques vénétiennes et qui sont voisines du Frioul. Le Frioul est donc à la frontière avec Croatie, je crois, c'est ça?
Croatie et Slovénie.
Les mosaïques vénitiennes, oui. je lis seulement cette définition d'aspect luxueux. par l'utilisation d'émaux aux couleurs brillantes ou d'or et d'argent. Elle se trouve utilisée surtout sur les murs. Je vous en prie, Louis Ferreux d'Arcier.
Alors, oui, bien sûr, vous avez raison d'insister sur le fait que ces œuvres ne sont pas seulement hygiéniques et naturellement. c'est le côté peut-être très pratico-pratique des archives qui m'influence.
Oui, mais il faut l'évoquer, non ? Mais vous avez tout à fait raison, il fallait...
En fait, bien entendu, on a tendance aussi, alors on a plein de dossiers alors qu'on n'a pas exposé parce qu'ils ne sont pas aussi beaux que les mosaïques, mais dont on trouve la trace dans le parcours de l'exposition et dans le petit livret qu'on a publié. Ce sont des mosaïques alors qu'on a souhaité montrer aussi avec une grande diversité esthétique, hein, puisque vous avez visité l'expo, vous avez vu qu'il y a ces mosaïques qui sont quasiment photographiques à l'entrée.
Je voulais diffuser un titre de Toto, Hold the Line, je voulais mettre, ou alors Africain, et puis finalement je ne les ai pas trouvés, mais c'est bien lui, le musicien du groupe Toto avec des lunettes rondes et puis un chapeau. Et c'est incroyable, oui. Il y a une vie dans oui. ces... Elles oui. sont toutes petites, hein, des petits portraits.
Des tout petits portraits,
un peu plus gros
oui.
qu'une photo, certes.
Oui, oui. Mais c'est... Donc ça, c'est une esthétique évidemment qui n'est pas celle de la mosaïque antique, mais qui est très frappante, hein, qui a un mouvement, une présence en tout cas.
De réalisme assez stupéfiant.
Ensuite,
alors
vous avez...
on parle de petites tesselles, hein, de petits carreaux, oui. des petits éléments qui sont tous...
Vous avez bien sûr une grande mosaïque antiquisante, mais qui correspond, donc, comme j'ai expliqué, un peu au mode d'apprentissage de la mosaïque par les élèves de l'école de Spilimberg. Et puis vous avez également, dans la même veine, une mosaïque qui vient cette fois reproduire une mosaïque donc, de la cathédrale de Florence, avec ce diable qui attrape des damnés pour les manger, donc qui est inspiré assez directement, je pense, de la Divine Comédie de Dante, et qui est effectivement très impressionnante et très, très visuelle. Ensuite, on a des œuvres beaucoup plus, enfin d'inspiration, de tendance beaucoup plus contemporaine, avec des contrastes parfois beaucoup plus forts, une gamme aussi de couleurs qui peut varier énormément. Il y en a une qui est extrêmement chaude, il y en a une autre qui est beaucoup plus dans l'or. Plutôt une tendance à l'abstraction d'une manière générale, à l'exception donc de ces photos, enfin de ces mosaïques quasiment photographiques. Et puis le développement de la tridimensionnalité avec ces œuvres qui ressemblent à des colonnes. Et effectivement, on peut être sensible. Alors, il ne faut pas toucher les œuvres, c'est bien ce qu'on m'a dit.
Ouais, c'est compliqué.
Mais ce qui est très frappant quand on les voit de près, c'est qu'elles ne sont pas plates.
Il y a une épaisseur.
Il y a une épaisseur de l'œuvre et ça se voit très bien parce qu'elles sont à hauteur d'homme et on peut en effet percevoir cet aspect-là de l'art de la mosaïque qui en fait pas vraiment un art proche de la sculpture mais quand même un art qui n'est pas si proche que ça de la peinture, qui a sa propre matérialité.
Ceci dit, vous dites qu'il ne faut pas toucher les œuvres, mais je vois marqué sur votre programme le samedi 8 avril de 14h à 17h30. Vous venez participer à la création d'une mosaïque commune. Ça veut dire que vous pouvez toucher du coup et fabriquer
ce celles même. Qui seront faites. Voilà, c'est ça.
Celles-là, vous pourrez
ce
la
sont pas
faire.
Celles qui seront
voilà.
exposées.
Voilà, c'est ça.
On pourrait la faire.
Et peut-être préciser, je ne sais pas si tu l'as fait, Christophe, mais j'ai l'impression que tout est gratuit.
Alors chez nous, tout est gratuit.
Mais c'est important.
Tout est gratuit.
Je vois, visite gratuite sans réservation, c'est important.
J'ai fait un peu le grincheux évoquant les horaires, mais c'est quand même, ce sera ouvert certains samedis, et puis la gratuité a son importance aussi. Non, c'est.
Puis si on veut apprendre à faire la mosaïque le samedi 8 avril, c'est parfait ça.
Bon, allez. Alors c'est une expo qui se visite un peu seule, enfin bien sûr, mais je dirais que ça a beaucoup plus de saveur quand on fait des visites guidées. Donc visite guidée avec nos partenaires ou avec aussi une orientation plus historique, enfin avec plus une orientation en histoire de l'art selon les jours, hein, puisque nous alternons entre historien de l'art et homme de l'art.
À 15h02, je crois que ce sont de très beaux mots de fin, de conclusion. Venez à plusieurs, auditeurs, auditrices, avec des amis, des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Venez à plusieurs voir cette exposition. L'école des mosaïstes, peut-être qu'on peut le formuler comme cela en français, du Frioul à Lyon. C'est sur la place des archives, dans ce beau bâtiment des archives municipales de Lyon. C'est jusqu'au samedi 8 avril et les horaires sont tout de même très convenables. C'est très bien, on peut s'y rendre de manière très simple aussi. Métro, tram, tout est possible. Circuit accès doux. On va se quitter. C'est gratuit. On va se quitter avec un titre. Alors napolitain, ce n'est pas. On n'est pas dans Venise ou dans Udine. On n'est pas tout en haut de l'Italie. On est plus au centre avec un titre. Dieu vous laisse. Vous laisse. Et nous Guinéa. Alors c'est une chose un peu étrange. Néanmoins, vous allez voir qu'il y a une bonne pêche. Et vous pourrez entendre cela, auditeurs, auditrices, avant de retrouver les programmes habituels à venir. Blues des Canuts dans quelques instants. À 17h, Mélomaniac. 18h, Mayday. 19h, le Canu Info hebdomadaire quotidien, celui du mercredi pour aujourd'hui. À 20h, Idée Noire, émission de l'UCL. Et oui, je ne sais pas, à 21h, je l'ai eu. À la mi-janvier, je savais si ce serait la bande-son de la révolte. Musique contestataire ou bien à l'Est l'Éden, et j'ai perdu. Je ne sais plus laquelle de ces deux émissions sera en alternance. À 22h, de 10h jusqu'à minuit, Bully Mix.
Auditrice, auditeur, appelez-nous et dites-nous si Christophe s'est trompé ou pas.
Mais en plus, l'émission n'est pas forcément rediffusable, écoutable à l'Est l'Éden. Elle est très gentille, Manon, mais j'ai manqué. Elle m'a dit que c'était les semaines paires ou les semaines impaires, je ne sais plus. Et en plus, parce que ça sautait, hein, elle m'a dit ah, mais non, là c'est pair, là ça a lieu et là ça n'aura pas lieu. Merci beaucoup, Louis Fèvre d'Arcier. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour la prochaine exposition de Bruno Paccard, ou bien vous avez aussi une autre exposition à venir en fin d'année, c'est ça?
Alors, Bruno Paccard, donc c'est fin avril, et en fin d'année, on aura quelque chose plutôt en lien avec les violences faites aux femmes, et donc en partenariat avec Médecins du Monde.
Aujourd'hui, mercredi 8 mars, c'est peut-être une bien de l'évoquer. Gilles y était très sensible tout à l'heure, la journée des droits. Les droits des femmes, comment formuler ça, droit et histoire de c'est bref, écoutons, c'est compliqué, je trouve, comme matière là, on est trois hommes là à s'exprimer, c'est forme de parité un peu compliquée, mais on veut bien, nous, des chroniqueuses dans l'émission, on veut bien différentes personnes. Écoutons le titre de cette compilation de Radio Nova, c'est bon ça, Nova, hein, Francis. Louis Fèvre d'Arcier, merci à vous, on se retrouve une fois prochaine. Francis, mercredi prochain, Opéra, Les Noces de Figaro avec le metteur en scène Eugen Gebeleanu. Écoutons le titre italien pour se quitter et restez à l'écoute des bandes continues et de tout, c'est très bien. Portez-vous bien, au revoir tout le monde, bye bye.